15 mai 1923. Tel Aviv, lycée Herzliya, 15h30. Combien de tes pièces ont été jouées depuis que tu es chez nous? Les yeux, dont ceux de M. Maussinson, Rachel resta silencieuse. Une demi-heure plus tôt, il lui avait fait porter un billet dont la teneur ne laissait aucun doute quant à ce qu'il attendait. Rachel Alcabès se rendra au bureau du proviseur dès la fin du cours. À son côté se tenait Madame Charette, la responsable des activités artistiques. « 3 pièces, enchaîna Madame Charette. Chaque fois montée à l'occasion de la remise des diplômes. La plus importante cérémonie de l'année. » Elle consulta une feuille de papier. En 1920, c'était les 2 amours de Madame Lila. L'année suivante, retour à Jérusalem. Et en 1922, les Patriotes. « On ne monte les pièces d'aucun autre élève. » poursuivit Madame Charette. « Te rends-tu compte de ta chance ?» Au moment de commencer l'écriture de Rabbi Seligman, Rachel avait relu les 3 pièces. Des niaiseries. La première racontait l'histoire de jeunes Zolim, immigrés juifs, qui travaillaient dans un kibboutz où une Madame Lila s'occupait des lessives. L'un était rouquin, l'autre brun, et la femme qui les trouvait beaux tous les deux ne savait pas lequel choisir. C'était une farce. Les 2 autres pièces ne parlaient, elles aussi, que des immigrants, certes sur un mode un peu plus grave, mais enfin, les Arabes n'existaient pas. À leur relecture de ces 3 pièces, elle avait eu honte. Regarder ailleurs, c'était abandonner, c'était donc trahir. Rester silencieux, c'était trahir. Ignorer, c'était trahir. En réponse à ces 3 niaiseries, elle avait écrit « Rabbi Seligman ». Nous aussi avons de la chance de t'avoir, intervient M. Maussinson. Tes pièces sont vivantes, prenantes, de petits bijoux. Tu as un talent fou. Mais voilà que Rachel leur proposait un texte qui risquait de diviser. Une pièce qui pourrait leur coûter leur subvention s'ils faisaient la folie de la monter. Ne savait-elle pas que le lycée Herzliya était l'un des fers de lance du Yissouf? Qu'une de ses missions était précisément de participer à la construction du royaume? Comment aurais-je pu l'oublier? Se demanda Rachel. Il lui suffisait de prendre le chemin du lycée pour s'en souvenir. Sa façade avait été construite sur le modèle du premier temple, dans l'intention d'annoncer un futur glorieux. Peu importait que ce dernier fût incertain et douloureux, le gymnase hébraïque de Herzliya devait incarner le nouveau royaume, là où les enfants des diverses diasporas allaient se retrouver, se fondre les uns aux autres, engendrer le nouveau juif. Et rien pour cela n'avait semblé aussi puissant et efficace qu'un rappel messianique. Tel était le rôle assigné à l'impressionnante façade. Elle dominait de toute sa hauteur les maisons de l'avenue Herz, qui ne faisaient qu'un ou 2 étages. Rachel continua de rester silencieuse. La réprimande ne la surprenait pas. Le cri de Rabbi Seligman était l'histoire d'un immigrant un peu simplet, mais très pieux, qui chaque année, dans ses prières de Pâques, remplaçait l'expression sacrée « l'an prochain à Jérusalem » par « l'an prochain à Tel Aviv ». Non que l'homme remît en question l'importance de la ville sainte, mais il se disait qu'elle faisait partie du passé, d'un passé bien flou, du reste, dont chacun pouvait raconter l'histoire à sa manière. À Jérusalem, les Juifs étaient nombreux depuis toujours, mais il y avait pour moitié des musulmans et des chrétiens. Si tous les juifs de la diaspora décidaient d'investir la ville, ils devraient chasser d'autres hommes, d'autres femmes, des enfants qui s'y trouvaient bien, qui étaient chez eux, tandis que Tel Aviv. Ah, Tel Aviv, le sel de la terre, avec tous ces olims si beaux, si forts, si travailleurs, qui transformaient les dunes de sable en vergers, qui bâtissaient une ville sortie de nulle part, le nouveau royaume, une ville aussi juive que pourrait l'être une ville, juive comme l'était Jérusalem 2000 ans plus tôt, à l'époque du Temple. Une ville qui incarnait l'avenir, la liberté, l'honneur du peuple juif. Alors, au moment de la prière, il ne prononçait pas le rappel de Jérusalem, mais disait, pour lui-même, ces mots impardonnables, l'an prochain à Tel Aviv. Jusqu'au jour où, pris par l'enthousiasme d'avoir vu une rue entière de Tel Aviv se construire en quelques semaines, il s'oublia, cria presque la phrase litigieuse à la table du Seder et fut convoqué par le conseil de sa synagogue. « J'ai voulu honorer l'esprit pionnier, dit enfin Rachel. À Tel Aviv, nous sommes entre nous, mais partout, Ailleurs, il y a des Arabes, depuis longtemps. » Monsieur Maucinson la regarda en secouant la tête. Tout laissait penser que Rachel avait devant elle un avenir de dramaturge. Mais si elle persistait à remettre en cause les valeurs fondamentales de l'immigration, cet avenir deviendrait très hypothétique. « Chacun lutte pour son camp, » lança Madame Charette. « Avec ta pièce, tu ne choisis pas le bon. »«
Je n'en choisis aucun, » rétorqua Rachel.
Elle pensa se reprendre, dire « Je choisis celui de la justice » ou encore « Je choisis celui de la coexistence. » Mais elle se dit que ce serait du temps perdu. Madame Charette feuilleta un cahier d'écolier et s'arrêta à l'une des répliques de Rabbi Seligman lorsqu'il s'était trouvé face au conseil de sa synagogue. « Mes chers frères, que voulons-nous réaliser par notre retour en terre d'Israël? Recréer notre royaume? Ne plus être tributaires d'autrui? Vivre entre nous, dans la dignité? Comme bon nous semble? À Tel Aviv, nous sommes chez nous, entre nous. À Jérusalem, il y a des Juifs, c'est vrai, mais il y a aussi des Arabes, des musulmans et des chrétiens. Faut-il les chasser? Ils seraient malheureux. Qui mieux que nous pourrait comprendre un tel malheur? Qui comme nous a subi 2000 ans d'humiliation? Aucun peuple. Alors je vous le demande, mes chers amis, pouvons-nous construire notre bonheur sur le malheur d'autrui? Ces mots, l'an prochain à Tel Aviv, incarnent à mes yeux une note d'espoir, une invitation à conquérir sans dépouiller. Tandis qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, l'an prochain à Jérusalem annonce des tristesses. « Ces mots ne sont pas compatibles avec notre mission, » dit Madame Charette d'une voix soudain colérique. « Ils invitent à un abandon flagrant de nos valeurs, de notre projet sacré. Allez, file !» Rachel se leva, dit « Je ne regrette pas un seul d'entre eux » et partit. Alors qu'elle remontait lentement la rue Herz en direction de Nahala Binyamin, un sentiment étrange l'envahit. Elle était contente. En écrivant Rabbi Seligman, elle avait échappé à sa lâcheté. À vouloir que ses pièces soient jouées à tout prix, elle était tombée dans une sorte d'escroquerie morale. « Tout va bien, mesdames et messieurs. Nous sommes les meilleurs et les autres sont des salauds. » En définitive, si le lycée refusait de monter Rabbi Seligman, cela prouvait que cette pièce-là avait un sens. « Je n'ai pas l'impression d'avoir ma place ici, » dit Rachel à Ida en arrivant à la maison. « Il paraît que je trahis les miens. » Ida la prit dans ses bras. À 18 ans, sa sœur était devenue une jeune femme monumentale, puissante, très belle, très forte surtout. Elle avait des parents, de vrais parents. Et il y avait Mounir. Il les aimait toutes les deux, bien sûr, mais avec Rachel, c'était autre chose. Elle faisait partie de sa vie. Et puis, Rachel était chez elle dans cette Palestine juive et arabe, encore turque malgré le départ des Ottomans, pas vraiment anglaise. Mais elle... Ses parents étaient venus fonder le nouveau royaume et en étaient morts. Avait-il eu raison de venir? Est-ce qu'un jour la vie pourrait s'écouler normalement en Palestine, comme dans les autres pays? Tel Aviv grandissait, mais des grondements venaient de partout. Le seul point solide auquel Ida pouvait s'arrimer, c'était Rachel. Rachel est sa force. Rachel est son corps forteresse. Rachel est sa tendresse pour elle. Rachel est son intelligence fulgurante. Rachel et son amour pour les Arabes, pour leur cause, pour Mounir et Aïcha. À côté de Rachel, Ida n'avait d'autre choix que de comprendre. D'essayer de comprendre. Comme cette histoire de Rabbi Seligman qui ne voulait pas accaparer Jérusalem. Elle avait fini par considérer que c'était une bonne idée. Elle aussi trahissait les siens.
15 septembre 1936, rue Levinsky, 13 heures. Impressionnant. Le journaliste s'approchait de la bibliothèque la tête penchée, de façon à pouvoir lire les titres écrits à la verticale. Tous les livres de Martin Buber semblaient y être. Rachel l'avait repéré la veille à la générale. Assis au premier rang, il n'avait cessé de prendre des notes, l'air affairé. Le genre qui fait son travail et assassine en bonne conscience. Elle lui proposa de s'asseoir, mais il n'y prêta aucune attention et continua de scruter la bibliothèque. « Je m'appelle Irving Feinstein, » lui avait dit le journaliste à la sortie de la générale. « Je suis critique de théâtre au Jerusalem Post. » Il voulait qu'elle lui accorde une interview avant la première. elle n'aurait pas dû accepter. Cela faisait une minute que le journaliste était arrivé, et déjà elle était à cran. « Votre mari et Boubert se connaissaient bien ?» Ce n'était pas une question. Brit Shalom, le mouvement de Martin Boubert, qui prônait la constitution d'un État binational, avait été un échec. Karl était venu en Palestine pour y jouer un rôle prépondérant. Feinstein finit par prendre place. Il voulait discuter de la pièce, bien sûr, de sa charge politique sujette à controverse, mais aussi de Rachel et de sa sœur, de leur enfance à Jaffa, de leur premier succès, de ses échecs récents, de la place du théâtre dans sa vie. Il parlait hébreu avec un fort accent américain. Rachel lui demanda depuis quand il était en Palestine. 5 ans. Elle lui demanda pourquoi il était venu. Pour vivre dans la dignité, comme elle. Vous venez de Jaffa, vous êtes proche des cohabitationnistes. Pourtant, vous habitez dans un quartier où il n'y a que des juifs. Après la première de « Retour à Jérusalem » au théâtre Beit Aham, la maison du peuple, un journaliste du Jerusalem Post avait écrit « Rachel Alcabès collectionne les échecs, reconnaissons-lui le mérite de la constance. Elle porte un regard nostalgique sur un monde qu'elle embellit au fur et à mesure qu'on s'en éloigne. De chacune de ses pièces perce l'antisionisme. Elle nous servira toujours son même slogan « C'était mieux quand il y avait moins de juifs et que tout le monde parlait arabe ». Ce n'était pas Feinstein qui avait écrit l'article. Il voulait comprendre quelle vision avait Rachel du judaïsme, de sa dimension universelle, du retour au royaume. Quel regard portait-elle sur Tel Aviv, ce miracle juif? Elle préférait qu'il parle de sa pièce. « Bien sûr, dit Irving, les Perses, on est toujours dans votre leitmotiv. L'immigration en Palestine est une erreur qui va déclencher les pires maux. C'est très étrange, cet a priori. L'échec de Brit Shalom ne vous a pas fait changer d'avis ? » Elle haussa les épaules. Avec Karl, ils étaient des dinosaures de la cohabitation entre juifs et arabes, elle le savait. Le mouvement avait tenu quelques années, puis avec l'afflux d'immigrants et le succès d'une Tel Aviv toujours plus grande, plus forte, les velléités de coexistence avaient été balayées. Elle n'arrivait pas à écrire autre chose que des pièces à contre-courant. Il lui demanda comment lui était venue l'idée de la pièce.
« Pour raconter le retour de Xerxès en Perse, après sa défaite à Salamine, Eschyle crée le théâtre contemporain. Il se met dans la peau du vaincu. Il veut comprendre ses émotions, son humanité. Il m'a semblé intéressant de décrire les réactions d'un groupe de Juifs qui s'apprête à monter la pièce d'Eschyle, de comparer la situation des Grecs après la bataille de Salamine à celle qui pourrait un jour être celle des Juifs en Palestine. »
J'ai noté cette réplique. Les Perses ont perdu la guerre et rentrent chez eux, ils ont un pays, mais nous, si nous n'arrivons pas à recréer le royaume, où irons-nous? À quoi un personnage, celui joué par votre sœur, répond « Et si ce sont les Palestiniens qui perdent la guerre, comment les traiterons-nous? Avec l'humanité de ceux qui ont connu l'exil ou avec l'arrogance des vainqueurs dont parle Eschyle ?» Elle ne réagit pas. La disparition de Brit Shalom marquait la victoire du nouveau juif. Conquérant, puissant, un juif qui redressait la tête autant qu'il avait dû la baisser par le passé. Quand Boubert avait lancé son mouvement en 1925, Tel Aviv comptait 40 000 habitants. 10 ans plus tard, rejoints par ceux qui avaient fui le nazisme, ils étaient 4 fois plus nombreux. La ville avait confié son urbanisme à un Anglais qui en avait fait une agglomération puissante, ambitieuse et surtout occidentale. Pas question de rechercher autre chose qu'une victoire totale. Ceux de Brit n'étaient que de vieilles barbes. « Et en cas de victoire, demanda Feinstein, les Juifs se montreraient-ils charitables ou intransigeants? Car tôt ou tard, une vraie guerre allait éclater, terrible, décisive. Personne du vainqueur ou du vaincu ne serait légitimé à chasser l'autre. Mais sur 100 Juifs qui avaient fait leur alia, 95 voudraient expulser les Arabes de Palestine. » « Vos liens étroits à Mounir Khalifa, le virulent éditeur de Falastine, avec lequel vous avez été élevé, je crois, ont sans doute influencé votre théâtre. »
Avec les Perses, Eschyle a gagné un grand concours de dramaturgie. Personne ne l'accusa de traîtrise. Son travail consistait à chercher la vérité, pas à juger.
« Votre précédente pièce, Retour à Jérusalem, n'a pas très bien marché. La critique ne vous a pas épargné. Le public n'était pas au rendez-vous. Il y a eu des heurts à la première. » Ce journaliste avait raison. Elle n'était qu'une crétine qui défendait une cause perdue. Elle se leva. Le journaliste resta assis. « Le pays ne pourra se construire que si nous sommes tous solidaires. »«
Qui, tous ? Les Juifs ? Que les Juifs ? Et ceux qui étaient là avant nous ?»«
Après. Après nous. »«
Après nous, quand ? Quand ? Il y a 1000 ans ? Et vous, quand êtes-vous venu en Palestine ? Il y a 1000 ans ? Quand sont venus vos parents ? Il y a 1000 ans ?»
Elle se dirigea vers la porte-palière, l'ouvrit et baissa la tête, en attendant que le journaliste quitte l'appartement. Au moment où il arriva au seuil de la porte, le journaliste s'arrêta, dit « J'admire votre courage » et quitta l'appartement.
Elle alla s'étendre sur le canapé du salon et balaya du regard les rayons de la bibliothèque. Au fond, tout tournait autour des livres de Karl. Ceux qu'il avait lus, ceux qu'il avait écrits, les textes de Buber, les revues juives d'Europe centrale, les magazines de Tel Aviv, les numéros de Palestine qu'elle gardait avec grand soin, la question juive, la question arabe, la question de la Palestine, le bon, le juste, le faux, les clans, les menaces, les attentats, les morts, les appels aux droits, aux Anglais, aux associations juives, aux partisans de Brit Shalom. Tout cela envahissait sa vie partout, à chaque instant, au salon, dans sa salle de bain, dans sa chambre à coucher, lorsqu'elle faisait l'amour avec Karl, dans la chambre d'Elisheva, lorsqu'elle la mettait au lit ou quand elle allait la regarder dormir, au moment du réveil, quand elle allait faire ses courses, lorsqu'elle se mettait à sa table de travail, lorsqu'elle saluait les gens du quartier, au café avec Karl ou en promenade avec Elisheva le long du boulevard, rien n'échappait à ses tourments. Ils infiltraient chaque petit espace de sa vie comme une poudre si fine et prégnante que rien ne pouvait l'arrêter ni la diluer. Ailleurs dans le monde, les gens vivaient-ils dans une telle angoisse, dans cette impossibilité de se sentir le cœur léger, ne serait-ce qu'un peu, de temps en temps? Étaient-ils comme elle incapables de pouvoir souffler, de jouir librement d'une caresse, d'un mot tendre, sous peine de se sentir coupable? Son regard tomba sur un portrait au crayon d'Elisheva, le seul objet qui occupait un espace de la bibliothèque et qui n'était pas un livre. C'était Ida qui avait dessiné sa fille. Le portrait devait dater de 3 ou 4 ans. Rachel n'arrivait pas à le regarder comme une mère regarde une image de son enfant et se sent envahie d'une immense gratitude à l'égard de la vie. Poser les yeux sur le portrait d'Elisheva, c'était déjà convoquer toutes ses angoisses et tous ses démons. Dans quel monde vivrait sa fille? Où seraient-ils, elle et Karl, lorsqu'elle aurait 10 ans, 15 ans, et Ida? Heureusement, il y avait Ida. Et Karl, bien sûr, Karl. Qui a écrit cette pièce? C'était 8 ans plus tôt, une fin de soirée au terme d'une répétition de l'université hébraïque. L'homme qui avait posé la question était venu à la répétition la veille. Au bout d'une 10aine de minutes, il avait jeté un coup d'œil à sa montre et quitté la salle en vitesse. Ils étaient peu nombreux, ceux qui assistaient aux répétitions. Celui-là, pourtant, Rachel l'avait repéré. Grand de taille, très blanc de peau, il avait le regard fiévreux d'un intellectuel askénaze. Grande culture et immense doute. Lorsqu'elle l'avait vu revenir le lendemain, son cœur avait bondi. Durant la dernière demi-heure de répétition, il était resté immobile d'une attention de chaque instant. « C'est moi !» avait répondu Rachel. Elle avait quitté sa chaise et lui avait tendu la main. « Le titre ?» avait demandé Karl. Elle avait choisi une phrase de l'Exode, « La maison de ton prochain ». Deutéronome, avait dit Karl. Nous ne sommes pas nombreux à penser comme vous. Ils s'étaient croisés le lendemain à la cantine. Karl venait de Vienne, où il avait étudié la philosophie et l'histoire, avant de rejoindre Buber à Francfort, puis d'aller en Palestine, peu après la création de Brit Shalom. L'université hébraïque lui avait proposé une charge de cours en philosophie. Durant tout le repas, il n'avait parlé que de la pièce et du mouvement. La Palestine devait être une terre modèle, profondément égalitaire, ouverte aux Juifs, aux musulmans et aux chrétiens, quelle que soit l'importance de leur population. « Un exemple pour le monde entier », avait dit Karl. Être le peuple élu, c'était avoir un mandat, une charge, ce n'était pas dire « je suis le meilleur ». Depuis 10 ans, Elle et Karl n'avaient fait que cela, parler, espérer, et voir leurs espoirs s'amenuiser au quotidien. Chaque nouveau quartier de Tel Aviv, chaque nouvelle rue marquait la puissance des nouveaux arrivants, creusait les différences avec ceux qui étaient là avant eux, juifs ou arabes. De quoi s'interroger, s'angoisser, se désespérer de pouvoir un jour vivre ensemble. Les juifs ne venaient pas en Palestine dans l'intention de cohabiter avec les arabes. Elle pensa aux journalistes. Elle avait été sotte de leur envoyer. Il écrirait des méchancetés. Karl n'allait pas tarder. Elle quitta son fauteuil, se mit à la fenêtre du salon qui donnait sur Nahala Benyamin et guetta son arrivée.
16 octobre 1936. Dans le train pour Jérusalem, 8h45. Elisheva leva les yeux sur son père et sourit. Elle était infiniment heureuse d'être en voyage avec lui, confiante en lui autant qu'en elle-même, en sa mère, en tante Aïcha, en Ida et Ossip, confiante que le monde entier ne lui voulait que du bien et qu'elle pouvait l'aimer sans réserve, ce qu'elle faisait depuis toujours. Elle souriait à Karl, les yeux pétillants de connivence, et il émanait d'elle une puissance de petit animal. « Voilà ce qu'elle est, » se dit Karl, « un petit animal, avec ses cheveux impossibles à coiffer qui lui faisaient comme une crinière noire, une sorte de petite lionne noire. » C'était cette même force qui l'avait fascinée chez Rachel lorsque pour la première fois il l'avait remarquée en répétition des Perses, 10 ans plus tôt. Elle dégageait une intensité phénoménale. Il y avait sa force physique, bien sûr, cette masse impressionnante, rassurante, mais aussi d'une intelligence éclatante, impatient, avide de clarté, un regard qui portait loin, d'une indifférence suprême aux conséquences de ses points de vue. Elisheva aurait le corps de sa mère, cela se voyait, un corps forteresse. Elle aurait son visage, aussi gracieux que le corps était massif, un nez à l'arête fine, une bouche aux lèvres délicates, et des yeux noirs charbon, immenses et charmeurs. « Je peux me joindre à vous ?» C'était Avner, un ancien de Brit Shalom. Il prit place à côté d'Elisheva. « Tu sais que ton père est un homme très courageux ?» Elle leva les yeux sur Karl, et celui-ci lui fit un clin d'œil, ravi de ce qu'Avner avait dit de lui. Son seul regret à cet instant était que Rachel ne soit pas avec eux. L'idée lui traversa l'esprit que peut-être Feinstein lui avait plu. Il l'avait un peu malmené lors de sa visite à la maison. Sa critique dans le Jerusalem Post était assez énigmatique. De quoi la faire vaciller, peut-être même la séduire. Feinstein ne manquait pas de charme. Ses origines, ses raisons d'immigrer, ses points de vue sur le devenir de la Palestine, tout chez lui avait quelque chose d'exotique. Il était jeune, aussi. Du même âge que Rachel, tandis que lui, ni mystère, ni jeunesse, ni succès. Le train passa Lida, puis Ramlé, Al-Sejed. À partir de Dair Abaou, il se mit à grimper. Karl quitta ses notes des yeux et caressa du regard le paysage. Pourquoi aimait-il tant cette terre? Elle était aride, rocailleuse, peu accueillante. Qu'est-ce qui rendait ce paysage si attachant pour que chacun envisage le pire pour le posséder? La lumière de ces ciels gris? De tels ciels se retrouvaient ailleurs? L'histoire? Il ne le pensait pas. Plutôt le sentiment que ce lopin de terre était sacré aux uns précisément parce qu'il était sacré aux yeux des autres. Peut-être était-ce ce mimétisme qui faisait de cette terre l'objet d'un désir aussi effréné. Il pensa à sa conférence. Brit Shalom, c'était l'histoire d'un échec. Il chercha le regard d'Avner. Pourquoi faisait-il le voyage? Avner se mit à rire, parce qu'il était un méchougué, lui aussi. « Qu'est-ce que c'est, un méchougué ?» demanda Elisheva. Avner lui expliqua. Un méchougué était quelqu'un d'un peu fou. « Nous voulons croire à la paix, » intervint Karl. « Nous souhaitons que juifs et arabes cessent d'être fâchés. » Elle réfléchit quelques instants. « Qui a raison ?»« Mon trésor, » dit Karl. Le problème est qu'ici, tout le monde a raison.
16 octobre 1936, gare de Jaffa, 20h. Une foule compacte se pressait devant la porte principale de la petite gare. Face à elle, une demi-douzaine de militaires anglais en interdisaient l'accès. Une chapelle ardente avait été dressée dans le hall, où trois civières étaient posées à même le sol et recouvertes d'un drap maculé de sang. Sur l'une d'elles, on voyait à la forme du drap qu'il dissimulait le corps d'un enfant. Rachel, agrippée à son bras, Feinstein s'adressa à l'un des militaires en anglais. Après un court conciliabule, les autres s'écartèrent. À l'intérieur du petit hall, Rachel et Feinstein s'approchèrent de la civière dont le drap laissait deviner le plus petit corps. Rachel se mit à trembler. Un militaire s'approcha et se baissa pour soulever le drap. À peine avait-il esquissé son geste que Rachel broya le bras de Feinstein et perdit connaissance. Jérusalem Post, édition du 17 octobre 1936, première page. Attentat sur le Jérusalem-Jaffa. Hier, en fin d'après-midi, alors que le train qui reliait Jérusalem à Jaffa approchait de sa destination, un individu posté à une centaine de pas de la gare a lancé deux grenades à travers la fenêtre ouverte de l'un des compartiments. Toutes deux ont explosé, faisant trois victimes, deux hommes et une fillette. À l'arrivée du train, quelques instants plus tard, le personnel de la gare ne put que constater leur décès. Il s'agissait de deux éminents professeurs de l'Université hébraïque de Jérusalem, Karl Katzenbach et Avner Ben-Zvi, ainsi que de la petite Elisheva Katzenbach, âgée de 7 ans, qui avait accompagné son père à Jérusalem. Les auteurs de la tuerie ont revendiqué l'attentat par un billet reçu au bureau du poste. Ce sont des membres de la Main Rouge, un groupe d'activistes palestiniens qui se considèrent comme l'héritier armé de l'organisation La Main Noire, créée il y a une quinzaine d'années. La police militaire britannique procède à des interrogations et n'a pour l'instant arrêté aucun suspect. L'ironie tragique de cet attentat meurtrier touche à la nature des victimes. Karl Katzenbach et Avner Ben-Zvi étaient tous deux des membres très engagés de Brit Shalom, l'association aujourd'hui disparue qui prônait la constitution d'un État binational dans lequel Juifs et Arabes auraient les mêmes droits. La petite Elisheva était la fille de la dramaturge Rachel Alcabès, elle-même partisane active du mouvement cohabitationniste et dont la récente pièce « Les Perses » a fait l'objet d'attaques à l'occasion de sa première. Des manifestants des Aigles de Sion avaient empêché le déroulement normal de la représentation, comme nous le rapportions dans notre édition du 17 septembre. L'attentat du Jérusalem-Jaffa met une fois encore en lumière la difficulté qu'il y a, dans les circonstances actuelles, à cohabiter avec des mouvements arabes toujours plus violents et le risque de voir une recrudescence des activités de l'Irgun déterminée, elle aussi, à protéger les siens. Voir l'interview de Vladimir Jabotinsky ci-dessous.
17 juin 1968, New York, hôtel Waldorf Astoria, 20h. Personnellement, je vois une personne magnifique. Ronnie Cohen, le président de la New York Jewish Foundation for Peace, arrêta son discours, sûr de son effet. Comme prévu, les applaudissements et les vivats éclatèrent. Il avait préparé son coup. Depuis le début de son allocution, c'était la 10e fois qu'il actionnait la machine à déclencher l'ovation. Il en connaissait les mécanismes dans toute leur finesse. Il savait par exemple que dire « les jours sont révolus où l'on a souffert en silence » lui vaudrait quelques applaudissements polis, sans plus. Mais s'il dissociait les deux idées et les présentait dans un ordre précis, le succès serait tout autre. Il suffisait de servir la composante désagréable de la proposition, par exemple « on a bien trop longtemps souffert en silence », puis de la faire suivre par un contre-pied du genre « mais ces jours sont révolus ». Qui venait comme une libération, et l'ovation éclatait. Il avait commencé son allocution en faisant référence à un article du Times de Londres. « Vous êtes, chère Rachel, ou plutôt vous seriez, d'après vos propres paroles, telles qu'elles ont été rapportées par un grand journal londonien, une forteresse de cendres. » Il avait alors observé un assez long silence au cours duquel il avait regardé son auditoire d'un air mi-surpris, mi-comique, comme pour dire « qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» avant de lancer son estocade. « Personnellement, je vois une personne magnifique. » Comme prévu, l'ovation avait suivi.
Assise à la table d'honneur, Rachel ne broncha pas. De ce qu'elle était, forteresse ou pas, de cendre ou pas, ce brave Ronnie Cohen n'en savait rien. Mais enfin, il était gentil. Au lendemain de la reprise à Broadway du Wagon pour Ascalé, il avait réuni la fine fleur de la haute bourgeoisie new-yorkaise de l'Empire Room du Waldorf Astoria pour un dîner placé. 25 tables de 10, robes longues, smoking obligatoire et 2 500 $ le couvert. Les femmes assises à sa table auraient toutes pu jouer les porte-drapeaux d'une grande joaillerie de la 5e avenue. Elles devaient sans doute se forcer à lui sourire, au risque, sinon, de passer pour un culte.
« Mais par votre talent immense, votre engagement, votre courage, vous êtes aussi une forteresse dont nous sommes très fiers de partager les origines, les valeurs et les aspirations. » Il avait chaque fois laissé un silence et la machine à ovation avait fonctionné 3 fois.
À quelles aspirations pensait le brave homme? Il faudrait bien qu'elle lui réponde. Elle ferait l'éloge des Juifs de New York.
Par votre engagement, au-delà des 1000 vicissitudes que le destin a mises sur votre chemin, vous, Rachel Alcabès, forteresse de cendres, incarnez notre peuple. Les cendres. Peut-on parler de notre peuple sans penser aux cendres, je vous le demande? Et je ne fais pas seulement référence au régime nazi, je pense à 2000 ans de persécution. Il fit une pause. Mais nous sommes toujours là. À nouveau, les applaudissements crépitèrent. Une forteresse dont vous êtes l'emblème glorieux. D'autres applaudissements suivirent, plus nourris encore.
Quelle idée avait-elle eue, à Londres, d'ajouter le mot cendre? Où Jack Masry voyait-il en elle une forteresse? Un monceau de cendre et rien de plus. Voilà ce qu'elle était.
Et c'est pourquoi j'ai le grand honneur de vous remettre, au nom du comité de la New York Jewish Foundation for Peace, le prix de la paix pour l'année 1968. Rachel s'approcha du podium. Ronnie Cohen déplia un parchemin et le montra à la salle avant de le rouler à nouveau et de le remettre à Rachel. Elle le déposa sur le lutrin et commença son compliment en adressant une pensée émue à Mrs. Carabash, who taught me English when I was a young pupil in Jaffa a few centuries ago. Des mots qui lui valurent une ovation. Elle remercia la fondation, son président, son conseil, exprima sa joie d'être ainsi honorée, puis, ayant en quelque sorte rempli son devoir protocolaire, passa à des considérations moins consensuelles.
Je ne pourrais pas imaginer un groupe de citoyens plus exemplaires que ceux de votre communauté. Vous aviez raison, cher Ronnie, d'évoquer 2000 ans de persécution. 2000 ans auxquels vous avez répondu de manière magistrale. Vous êtes venu à New York en très grand nombre, 5 fois plus nombreux que ceux de nos coreligionnaires qui ont choisi la Palestine. Nous sommes le peuple du livre, dit-on. Alors je vous le demande, peut-on être le peuple du livre et ne pas avoir de mémoire? Oublier qui nous a massacrés et qui nous a permis de vivre paisiblement à ses côtés? Vous n'avez pris la place de personne. Vous n'avez fait la guerre à personne. Vous avez adopté la langue du pays qui vous accueillait. Vous y avez prospéré de manière spectaculaire dans tous les domaines, les arts, les sciences, le commerce, l'industrie, la banque, en harmonie avec ceux qui étaient là avant vous. Oui, vous avez porté haut les couleurs du peuple juif, peuple élu, il faut le rappeler. Oui, élu. Pour quelle mission? Quel est donc ce mandat dont chacun parle? Pas de faire à autrui ce que l'humain a subi, surtout si cet autrui n'y est pour rien. La mission du peuple élu, notre mission, est de rappeler au monde combien l'exil est douloureux.
Elle quitta le podium et se dirigea vers sa table, alors que quelques applaudissements polis saluaient son remerciement.